Par mon intervention, je me propose prolonger cette réflexion sur les concepts du travail cognitif en l'articulant à la question de la répartition du revenu et de la réforme du système de protection sociale. Compte tenu aussi du temps à ma disposition, et pour ne pas empiéter disons, sur le temps des autres, mon propos sera surtout de montrer pourquoi les conseils de travail cognitif permet aujourd'hui de donner un fondement nouveau, sans enlever d'autres justifications plus anciennes, à la proposition d'un revenu social garanti indépendant de l'emploi. En particulier, contrairement à l'affirmation et à la thèse développée par Méda dans ses séminaires, thèse selon laquelle, dans la mutation actuelle du capitalisme, rien ne changerait à la manière dont on peut justifier les revenus garantis, la thèse que j'entends défendre est la suivante. La reconquête et la montée de la dimension cognitive du travail permettent aujourd'hui, d'emblée, de penser les revenus sociaux garantis comme un revenu primaire. Un revenu assis à la fois sur la citoyenneté et sur le travail, au sens large de ces termes, c'est-à-dire comme la contrepartie d'une contribution directe à la production des valeurs et des richesses, et j'insiste bien sur ces deux termes parce qu'ils ne sont pas équivalents, et donc un concept de travail qui échappe à une conception réductrice du travail assimilée à la notion d'emploi. Dans cet effort de synthèse, je vais donc me focaliser pour l'essentiel sur la manière dont dans la transition du capitalisme industriel au capitalisme cognitif va s'opérer un déplacement du concept de travail productif. Un déplacement que, sur bien des aspects, correspond à la constitution de cette nouvelle section productive zéro dont il a parlé par exemple Tony lors de son exposé dans ses séminaires. Ce déplacement, dans les passages du capitalisme industriel au capitalisme cognitif, peut être caractérisé à grands traits à travers l'évolution de l'articulation entre les différents temps sociaux et l'articulation aussi du rapport entre marchands d'une part et non marchands d'autre part. Commençons donc par un très rapide rappel de la manière dont cette articulation s'est faisait dans le capitalisme industriel. Vraiment très rapide. Dans le capitalisme industriel, en relation avec le rôle moteur de la production en grande série des biens matériels et de la centralité du capital fixe et du travail matériel, les critères principaux de l'efficacité économique, non plus homogène du temps, et les principes de la productivité du bien. Ces critères, qui seront aussi les fondements matériels de la théorie de la valeur temps de travail, se concrétiser dans une organisation du travail en termes de travail prescrit et de temps alloué. Par ailleurs, ces normes se traduisaient également dans une représentation très figée du temps social. Je fais référence ici au clivage qui opposait rigidement les temps de travail direct salariés, considérés comme les seuls temps productifs, et les autres temps sociaux, consacré à la formation et à la reproduction de la force de travail, considérés, eux, comme improductifs. Et ce clivage, je ne sais pas ici le temps, disons, s'est décliné à plusieurs niveaux, dans l'opposition production-consommation, dans la production travail-loisir, et ainsi de suite. À la suite de la crise du Fordisme et de l'essor d'une intellectualité diffuse, les savoirs incorporés et mobilisés par le travail vivant devient désormais prépondérant par rapport au savoir incorporé dans les capital fixe et dans l'organisation des firmes. Et de cette évolution résulte une crise de cette représentation sociale du temps, ainsi que du rapport entre marchands et non-marchands que nous avons hérité du capitalisme industriel. Même si les tenants travaillistes et pas travaillistes, disons, dominants au sein de l'économie politique du mouvement ouvrier, disons, continuent en grande partie à se faire référence à ce type d'héritage. En fait, l'une des conséquences majeures du développement du travail cognitif est précisément la crise du régime temporel issu de la révolution industrielle. Régime temporel dont l'un des volets essentiels était justement la construction de cette séparation, de cette opposition entre travail et non-travail. Nous entrons ainsi dans un monde de l'hors-mesure, une hors-mesure qui concerne notamment la mesure du travail lui-même. Cette transformation peut être cernée tant sur les plans macroéconomiques et sociaux que sur un plan plus micro, concernant l'activité de chaque travailleur cognitif. Sur les plans macroéconomiques et sociaux, pour paraphraser Smith, nous pouvons affirmer que la source des richesses des nations se trouve désormais de plus en plus en amont du système des entreprises de l'univers marchand. En fait, contrairement à une idée répandue, le principal moteur d'une économie fondée sur le savoir ne se trouve pas dans les laboratoires privés des firmes, les laboratoires de recherche et développement consacrés à la production délibérée des connaissances. Ce moteur se trouve en revanche dans la société, dans les multiples réseaux d'échange et de coproduction des savoirs, et notamment, je dirais, dans les systèmes d'enseignement et de recherche, c'est-à-dire dans les services collectifs qui, pour utiliser la terminologie standard de l'économie politique, assurent la formation et la reproduction du capital humain. En fait, c'est justement dans l'expansion de ces investissements publics et de ces services collectifs, pour l'essentiel non marchands, que se trouve l'explication de l'un des faits stylisés majeurs marquant la transition du capitalisme industriel vers le capitalisme cognitif. Je fais référence à la dynamique historique par laquelle, au milieu des années 70, la part du capital dit intangible, éducation, formation, santé, c'est-à-dire du capital intégré dans la force de travail, a dépassé celle du capital tangible dans les stocks réels du capital. Ce qui signifie aussi, se cela soit dit en passant, que les conditions de reproduction de la force de travail sont désormais directement productives, voire qu'elles jouent un rôle prépondérant par rapport au capital fixe dans les facteurs explicatifs de la croissance de la production et de la productivité du travail lui-même. Notons aussi que ce fait stylisé est souvent mis en avant, pas les derniers, mais ce fait stylisé concernant le dépassement de la part du capital intangible par rapport au capital tangible, est mis aussi souvent en avant par les théories standard d'une économie fondée sur la connaissance. Mais ces interprétations ne mettent jamais l'accent et semblent oublier, de manière apparemment paradoxale, cet élément essentiel, à savoir la nature pour l'essentiel non marchande de ces services collectifs. Et c'est là justement alors qu'on assiste à une énorme entreprise de privatisation des services publics.
Encore 2 minutes.
2 minutes. Bon. Ouais. Ah, ok. Alors, sur le plan micro, de par sa nature, le travail cognitif comporte une dimension itérative, qui effrite les frontières traditionnelles entre temps libre et temps de travail, consommation et production, formation et attività directement productive. Le travail direct salarié, consacré directement à une activité de production durant l'horaire officiel du travail, ne constitue en fait plus qu'une fraction, et souvent la moins importante du temps de travail. Insomma, le temps di libre se réduit de moins en moins à sa seule fonction cathartique de reproduction du potentiel énergétique de la force de travail. Le travail di libre s'est ouvert de plus en plus sur des activités de formation, d'autoformation, de partage des savoirs, de travail bénévole, qui s'insèrent dans les différentes activités humaines et qui, de par leur nature, affaiblissent les frontières temporelles entre travail et non-travail. Finalement, dans ces différentes transitions, comme l'a bien montré par exemple l'intervention de Vallade, chaque individu transporte son savoir d'un temps social à l'autre, ce qui va élever la valeur d'usage des différents temps sociaux, et donc la dimension collective de la production des connaissances. Sur ces bases, je dirais donc, dans une première approximation, que la proposition d'un revenu social garanti inconditionnel peut être défendue, du point de vue même du développement d'une économie fondée sur la connaissance, comme étant à la fois un investissement collectif de la société dans la connaissance, c'est-à-dire, et un revenu primaire pour les individus, c'est-à-dire un salaire social issu directement de la production et non de la redistribution. Mais plus précisément, je crois que la proposition de revenu social garanti en tant que revenu primaire doit s'appuyer sur un réexamen de la notion de travail productif conduite d'un double point de vue. Le premier point de vue, le premier aspect, a trait au concept de travail productif, conçu, selon la tradition dominante au sein de l'économie politique, comme le travail qui engendre un profit et qui participe à la création des valeurs d'échange. Il s'agit là du constat selon lequel nous assistons aujourd'hui à une extension importante de l'exploitation, c'est-à-dire des temps de travail, hors journée officielle du travail, qui sont directement ou indirectement impliqués dans la formation de la valeur captée par les entreprises. De ce point de vue, alors, le revenu social garanti, en tant que salaire social, corresponderait à la rémunération de cette dimension de plus en plus collective d'une activité créatrice de valeur qui s'étend sur l'ensemble des temps sociaux et donne lieu à une énorme masse de travail non rémunéré. Le second aspect du concept de travail productif renvoie, quant à lui, au concept de travail productif pensé comme le travail producteur de valeur d'usage, c'est-à-dire come source di una richesse che échappe alla logica marchande e du travail salarié subordonné. Il s'agit là, insomma, d'affirmer télétravail peut être un productif de capital tout en étant productif de richesses non marchandes et donner donc lieu à un revenu, comme c'est par ailleurs aujourd'hui déjà le cas pour une grande partie du travail dans les services publics. Je conclurai donc en mettant l'accent sur le rapport à la fois d'antagonisme et de complémentarité entre ces deux formes contradictoires du travail productif et la manière dont elles s'agencent dans le capitalisme cognitif. En fait, l'expansion du travail dit libre va de pair avec sa subordination au travail social producteur de profit, et cela en raison même des tendances qui conduisent aujourd'hui vers le brouillage des frontières entre travail et non-travail, sphère de la production et de la reproduction. La question posée par le revenu social garanti est donc non seulement celle de la reconnaissance de cette extension du travail productif des valeurs et des plus-values, de cette extension de l'exploitation. La question est aussi surtout, justement, celle de son émancipation de la sphère de la production des valeurs et des plus-values, c'est-à-dire celle de la libération d'une coopération du travail libre et non marchande.
Effectivement,